Je vous en parlais hier au Québec, c'est près d'une personne sur quatre qui apporte un soutien à un membre de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente. On parle de proche aidante, de proche aidance aujourd'hui avec Patrice Saint-Pierre parce que c'est la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Allô, Patrice?
Bonjour, Annick. On a une bonne chronique aujourd'hui. Beaucoup de sujets.
Oui, beaucoup de sujets. Fait qu'on va y aller rondement, comme on dit. Donc, d'abord, vous vouliez souligner le travail des proches aidants parce qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est sous-estimé.
Bien, tout à fait. Puis tu le mentionnais d'entrée de jeu en début de chronique. Hein, une personne sur quatre au Québec est considérée proche aidant. Donc, c'est extrêmement intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que les proches aidants, il y a 20% de ces personnes-là qui vivent de l'insécurité financière parce qu'on sait que ça demande aussi beaucoup de travail pour ces proches aidants-là, mais aussi beaucoup d'investissement. À titre d'exemple, on calcule que 7 600 $ en moyenne sont dépensés par les proches aidants à chaque année. Je vais donner un exemple. Tu vas chercher ta mère ou un proche pour aller à l'épicerie, pour un rendez-vous à l'hôpital. Bon, bien, habituellement, si ces personnes-là vont avoir à payer pour leur essence ou tout ça. Donc, ça démontre qu'il y a des préoccupations financières. On dit aussi que 33% des aidants âgés ont déclaré, eux, avoir également là, des vécu du stress par rapport à ça. Donc, par rapport à tous ces éléments-là, même si on reconnaît que la prochaine aidance est très, très importante, on demande au gouvernement de différents éléments pour faire en sorte d'alléger le fardeau fiscal, notamment de ces personnes-là, notamment en plaçant là, des crédits d'impôt remboursables qui vont être intéressants pour les personnes, aussi d'instaurer un régime québécois d'assurance proche aidance. Donc, ça pourrait facilement aider là les personnes qui ont déjà la préoccupation de prendre soin de leurs proches, mais également là, d'avoir à combler les besoins financiers, là, des fois, qui peuvent être un peu préoccupants. Donc, voilà, un petit rappel pour dire à ces gens-là, merci beaucoup du travail que vous faites. Merci de l'apport que vous apportez aux aînés ou à des personnes plus jeunes. Et en cette semaine, on voulait particulièrement là, vous lever notre chapeau.
Oui, puis je vais terminer en disant merci aux employeurs qui comprennent la situation parce qu'une personne sur quatre, ça veut dire qu'il y a une personne qui régulièrement doit s'absenter ou prendre des arrangements pour accompagner, par exemple, les parents du côté de leurs rendez-vous médicaux et tout ça. Pas tous les employeurs qui comprennent, mais en même temps, il y en a de plus en plus parce qu'on vit tous le même problème en ce moment en société, là.
Oui, puis avec une société qui est vieillissante ici, puis avec un Québec qui favorise de plus en plus le vieillir chez soi, même si on a développé des services de proximité pour permettre aux gens de vivre le plus longtemps possible chez eux, bien, il reste qu'il y a encore beaucoup de proches aidants qui s'impliquent pour permettre aux gens de demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Et l'effritement des familles, hein, ça, on n'en parle pas beaucoup, mais la dénatalité qu'on connaît, qu'on a connue au Québec.
C'est vrai.
Et dans la région, bien, ça fait des familles qui sont moins nombreuses, donc moins de gens pour prendre soin d'un parent.
Puis des fois, les enfants sont à l'extérieur de la région aussi.
Voilà. Donc, le tour vient plus souvent pour certaines personnes et c'est normal, considérant que les familles sont beaucoup moins grandes que ce qu'on connaissait à l'époque.
Bien, merci beaucoup de travailler le dossier parce que c'est un dossier super important. Autre chose qui est intéressante, c'est la mesure fondée sur un panier de consommation MPC qui est utilisé par le Canada pour déterminer le seuil officiel de pauvreté au pays. Ce qu'on comprend, c'est que leur façon de mesurer ça sous le seuil de la pauvreté, c'est plus adapté à aujourd'hui.
Non, exactement, parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas calculés dans le prix moyen qu'ils font du panier de consommation. Et ça a une incidence sur beaucoup d'éléments. À titre d'exemple, lorsqu'on fixe le seuil de pauvreté au Canada, bien, prenons pour exemple les pensions de sécurité de la vieillesse. Bien, on va aller évaluer les montants qu'on va donner de pensions de sécurité de la vieillesse, les montants minimums, en prenant pour compte le seuil de faible revenu. Or, à ce moment-là, si le panier de consommation est mal évalué, bien, on va avoir des gens qui vont être sous-financés au niveau de leurs revenus, qui ne leur permettra pas de subvenir à leurs besoins vitaux de façon convenable. Donc, on a placé sur notre page Facebook un questionnaire que les gens peuvent compléter. Dans le fond, on veut démontrer au gouvernement en faisant une enquête sur la mesure de pauvreté qui est fondée sur le panier de consommation. On veut démontrer au gouvernement avec un questionnaire que les gens peuvent compléter, qui est très, très facile, qui est anonyme, comme quoi que leur calcul est complètement erroné et qu'il va falloir qu'ils se basent sur des chiffres différents pour calculer là, leur fameuse base de faible revenu, parce qu'actuellement, celui qui est utilisé est carrément non pertinent. Et il y a lieu là, d'améliorer cette situation-là, qui va permettre aussi, en bout de ligne, parce que c'est ce qu'on recherche, d'avoir un revenu qui sera plus convenable pour les personnes à faible revenu.
Absolument. Puis on dit qu'au cours des deux prochaines années, Statistique Canada va entreprendre l'examen approfondi du MPC là, pour procéder à sa mise à jour. Fait que ce que vous allez ramasser va contribuer, j'imagine, à documenter notre consommation réelle.
Bien, t'as très bien compris le but de l'opération. Donc, le but de cette opération-là est naturellement là, d'aller documenter pour permettre, là, dans le principe de révision qu'on fait, là, d'avoir des éléments qui vont nous permettre d'avoir une meilleure précision quant à l'indice réel du panier de consommation.
Prochain sujet, puis c'est un sujet qui me tient à cœur parce que j'entends ça régulièrement, tu sais. Vous autres, en ce moment, la FADOC, vous tentez de sensibiliser vos membres puis la population par rapport au danger d'une surdose d'acétaminophène, ce qu'on appelle le Tylenol, en lien avec une intoxication à cette substance, parce que ça peut arriver quand on en prend trop. Et moi, je sais que les gens qui font de l'arthrose, on leur dit qu'ils peuvent en prendre autant qu'ils veulent, jusqu'à concurrence de, je ne sais pas moi, 8 comprimés ou 6 comprimés par jour. On entend ça des médecins, on entend ça des pharmaciens. Il n'y a pas de problème. D'un autre côté, il y en a d'autres qui disent, ben oui, il y en a des problèmes. Fait que là, je trouvais ça intéressant qu'on discute de ça ce matin.
Oui, puis loin de moi, je ne suis pas un spécialiste en médecine, mais on va quand même vous donner de l'information par rapport à ça, parce qu'on a eu un mandat qui nous a été dédié dans une enquête qui a été instaurée par un coroner, Maître Francine Danet, qui a conclu à une mort accidentelle due à une prise prolongée d'acétaminophène d'une dame de 68 ans à Gatineau qui en est décédée. Il faut bien comprendre que pour la majorité des personnes qui n'ont pas de problématiques de santé particulières ou qui n'ont pas de phénomène de comorbidité, on a probablement pas de problème général. Mais ce que concluait Maître Danet, la coroner, c'est qu'il y a vraiment eu des analyses pathologiques qui ont démontré que la prise d'effet d'acétaminophène régulière a eu une incidence directe sur la mort de cette personne-là qui avait des problématiques avec son foie. Donc, ce qui sera important, c'est lors de votre prochain rendez-vous chez le médecin, parler quand même de cette situation-là qui s'est passée, de cette dame-là de Gatineau. Vérifier si avec votre consommation de médicaments général plus l'acétaminophène que vous prenez, si c'est toujours requis et si également le rythme de prise ne peut pas avoir une incidence. Donc, ce qu'on comprend, si vous avez déjà des problèmes au foie, bien, il y a peut-être là une sonnette d'alarme parce que la dame qui est décédée à Gatineau avait ces symptômes-là. Donc, il faut regarder, il ne faut pas paniquer dans la situation.
C'est vrai.
Il faut plutôt s'ajuster par rapport à cet élément-là. Donc, c'est pour ça que les coroners font des enquêtes. C'est pour nous permettre d'éviter de répéter des situations qui peuvent être malheureuses. Et à cet égard-là, bien, le coroner avait demandé à la FADOC nommément de pouvoir agir et donner de l'information à cet égard-là pour que les gens puissent faire une vérification et que ça ne devienne pas comme une prise de bonbons, hein, parce que les gens disent « Ah, ben prends du Tylenol, il n'y a pas de problème, tout ça ». Mais là, on a vraiment une situation qui n'était pas connue, qui n'était pas documentée auparavant, qui vient s'ajouter à la liste et pour lequel on lève le drapeau et on dit, bien, il faut peut-être faire certaines vérifications.
Absolument. Là, c'est sûr qu'on va parler de retraite. On va parler d'un simulateur pour estimer les revenus nécessaires. Il faut y penser quand on est plus jeune à sa retraite. Puis même des fois, quand on y a pensé, on n'a pas gagné les salaires qui allaient avec une retraite dorée, comme on dit. Des fois, ça stresse un peu les gens, là.
Oui, et je pense que c'est important parce que puis là, il y a plein de gens qui des fois regarde ça aller, puis qui pèle par en avant en se disant bon ben j'y penserai plus tard, j'ai un masse de temps, mais on sait très bien que il faut y penser jeune à notre retraite pour bien la préparer si on veut avoir quelque chose de, je veux dire entre guillemets, de confortable. Donc l'Université de Sherbrooke, la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, a développé un simulateur qui nous permet, là, de, avec quelques données intéressantes, là, d'aller mettre des paramètres sur nos principales sources de revenus, nos placements, etc. Et va nous donner un profil de niveau de retraite de ce qu'on pourrait avoir. Donc, cet outil-là est gratuit. Il est également disponible sur notre page Facebook et notre site Internet, fadoc.ca. J'invite les gens à l'utiliser. C'est intéressant. Ça peut nous aider. Puis, tu sais, moi, ce qui me surprend toujours, parce que je rencontre de nombreux groupes à chaque année qui sont en préparation, dans des cours de préparation à la retraite, et je suis toujours un peu surpris de voir comment est-ce que l'aspect financier, c'est quand même regardé, c'est considéré, mais souvent, les gens vont attendre à la dernière minute. Même chose à ce qu'il y a fait au testament. Je pense que c'est avec toi, on en avait parlé dans une chronique.
Ben
à un moment donné, j'avais 50% du groupe qui n'avait pas de testament, ils étaient sur le point de prendre leur retraite. Donc, ça ne fait pas mourir de faire un testament. Ça ne fait pas mourir non plus de planifier sa retraite. Ça nous rend juste plus prévoyant par rapport à ce qu'on voudrait avoir comme niveau de vie à notre retraite. Et ça, je pense que c'est important parce que si on décide les dernières années d'aller capitaliser pour nos revenus de retraite, bien, ça risque d'avoir un impact important sur notre quotidien aussi.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a un outil, évidemment, pour nous aider parce que ce que je disais ce matin lors d'un autre sujet, c'est que c'est pas tout le monde qui tripe sur les chiffres. Puis quand on parle à un comptable, des fois, ou quand on parle à des gens qui nous expliquent, bien, des fois, c'est trop compliqué, fait qu'on passe notre tour, tu sais. Il y a toujours façon de simplifier l'information pour nous informer correctement, là.
C'est ça, exactement. Puis c'est ce que je voulais, ce simulateur-là. Cet outil-là qu'on a développé, qui est présentement présent sur le site. J'avais parlé aussi dans une chronique il y a 2 semaines de quelque chose aussi qui existe au niveau canadien sur une nouvelle plateforme. Donc, mm-hmm. ces outils-là sont maintenant accessibles, gratuits, intéressants. Naturellement, ça ne remplace pas un bon vieux planificateur financier qui peut nous donner de l'information, mais ça nous donne quand même un profil qui est intéressant et ça nous dit ce qui sera important de faire aussi, c'est-à-dire de se prévoir si on veut une retraite, pas nécessairement une retraite dorée, mais une retraite confortable.
Maintenant, on va parler de bénévoles, parce qu'au sein de la FADOC, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévoles. Et si les bénévoles n'étaient pas là, peut-être que la FADOC ne fonctionnerait pas autant de notre côté, aussi bien.
Bien, écoute, les bénévoles, c'est un moteur très, très important dans plusieurs collectivités, dans plusieurs milieux. Ils donnent vie à plein de projets. C'est vrai aussi à l'intérieur de la FADOC. On évalue, nous, à l'intérieur de notre organisation, à un peu plus d'un millier, là, le nombre de bénévoles qui s'impliquent à chaque semaine dans le déploiement d'activités favorisant l'amélioration de la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Hey, c'est beaucoup, au Saguenay-Lac-Saint-Jean?
Bien oui, tout à fait, parce que si tu regardes uniquement l'implication au niveau des conseils d'administration, on a 63 structures de clubs qui sont constituées déjà là, d'à peu près 7 personnes en moyenne. Il y en a que c'est 11, il y en a que c'est 5. Mais bon, mettons à 7, on est déjà à 500 administrateurs. Ça, c'est uniquement les gens qui sont sur les conseils d'administration. Mais tu as tous les bénévoles qui vont être des responsables de ligue, qui vont être des organisateurs d'activités, des personnes qui vont au niveau de l'entretien des salles, etc. Donc, nous, on calcule qu'on a un peu plus d'un millier de bénévoles et on a obtenu au cours de la dernière année un important projet qui a été financé par la Croix-Rouge qui s'appelle Bénévolement 2.0. Et ce projet-là vise à les soutenir. On sait qu'à la suite du COVID aussi, c'était dur pour plusieurs de se relancer, de repartir la machine. Et dans le cadre du projet Bénévolement 2.0, il va y avoir toutes sortes d'activités, dont des activités de formation notamment, pour donner des outils à ces gens-là, mais on a développé ce qu'on appelle la place des bénévoles. La place des bénévoles, c'est qu'on veut reconnaître le travail de ces personnes-là, un peu comme quand on était jeune. Hein. Moi, j'ai déjà été camelot du mois.
Ah oh, oui!
Aujourd'hui. ça apporte toujours une belle reconnaissance. Hein. Ça n'est pas nécessairement avec des chèques, mais cette reconnaissance-là, la reconnaissance, c'est important.
On s'en rappelle.
Et voilà. Et sur notre site et notre page Facebook également, on a lancé cette semaine cette place-là des bénévoles où on va rendre hommage à toutes les 2 semaines à des bénévoles de notre organisation qui se sont distingués de différentes manières. C'est pas nécessairement juste sur le nombre d'années qu'ils sont impliqués, mais ça peut être dans l'originalité de leur bénévolat. Donc, il y a un premier témoignage qui a été mis en ligne que les gens peuvent aller consulter sur notre page Facebook. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des belles choses à raconter. Ces témoignages-là vont être renouvelés à chaque 2 semaines, donc on invite les gens à aller consulter.
Oui, cette semaine, c'est Francine Leblanc, notre bénévole.
Oui, puis c'est très touchant quand on lit, on arrive à la fin du texte, là, j'invite les gens à aller voir, vous allez voir que c'est quelque chose de pas mal intéressant, cette dame-là qui disait qu'elle n'avait pas de diplôme et sa mère non plus, mais que finalement, En tout cas, je ne vous donne pas le punch. Je vous invite à aller voir, à aller lire
Absolument.
Le texte. C'est vraiment très, très touchant.
Et là, si je te parlais de « Connais-tu ta région? » L'année passée, on avait lancé un jeu à la FADOC Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'appelle « Connais-tu la région? » en lien avec le jeu, évidemment, sur votre site web. Là. Mais là, je pense qu'il y a une autre édition qui s'en vient.
Et oui. Et là, les gens, ben écoute, il y a beaucoup de gens qui vont être très heureux d'apprendre que je vais leur apporter une bonne idée pour leur suggestion, leur bonne Noël, leur cadeau de Noël, parce que « Connais-tu ta région 2? » va être lancé. Fort probablement la semaine prochaine. On attend juste là, que nos jeux arrivent ici, mais normalement, le lancement se fait la semaine prochaine, donc on aura l'occasion d'en reparler dans notre chronique, mais c'est un jeu qu'on se rappelle, hein, 300 questions sur la région à la première édition qui avait connu un très, très grand succès. Donc, on a une nouvelle édition du jeu avec 300 nouvelles questions qui vont être déployées dans différentes catégories. Donc, le jeu va être encore en vente là, très, très bientôt. Je voudrais quand même vous teaser parce que je sais que plusieurs vont probablement... L'année passée, on avait lancé le 3 novembre. Ouais. Donc, là, on attend juste là d'avoir le produit final qui va nous arriver. On est très contents et très fiers de donner cet outil-là qui permet aux gens d'en connaître plus sur leur beau milieu de vie qui est la région du Saguenay.
J'ai très confiance que les gens, ceux qui ont eu le premier entre les mains, vont acheter le deuxième. C'est comme une suite, là, fait que... On va attendre celui-là impatiemment. Bien, merci beaucoup, Patrice, de nous avoir parlé ce matin. On avait plein de choses à se dire.
Bien, c'était très agréable. Merci à vous. On se reparle la semaine prochaine.
Bye-bye. Merci. Il est 11h26.